Grand jury, RTL, Le Figaro, LCI. Invité aujourd'hui, Marine Le Pen, présidente du Front National, candidate à l'élection présidentielle. Le débat est dirigé par Olivier Mazerolle.
Bonjour Marine Le Pen.
Bonjour.
Nous sommes à 15 jours du premier tour. On est finalement dans la dernière ligne droite. On a beaucoup de questions à vous poser avec Yves Tréhard du Figaro.
Bonjour.
Et Christophe Jacubicine de
Bonjour.
LCI.
Bonjour.
On va tout de suite passer à une question d'actualité parce que hier nous avons été surpris. Vous êtes une patriote, vous vous présentez comme telle. Vous défendez la nation française. Et en Corse, vous dites aux Corses, soyez Corse, ça va très bien. Donc on ne comprend pas très bien. Est-ce qu'il y a des traitements différents suivant les régions dans lesquelles on se trouve, suivant les régions dans lesquelles les Français sont originaires ?
Merci, vous allez me pousser à dire à tous ceux qui nous écoutent d'aller regarder en replay mon discours et ils y trouveront une phrase très claire, soyez Corse et soyez Français. Et soyez fiers d'être Corse et soyez fiers d'être Français. Parce qu'il est évident que la spécificité de l'intégralité de nos régions participe de la richesse de notre pays et que contrairement à ce que veulent faire croire certains, on peut tout à fait être très profondément patriote français et être attaché à ces spécificités.
Mais pourtant vous voulez supprimer les régions ?
Mais je veux supprimer les conseils régionaux. C'est pas tout à fait la même chose, précisément pour faire revivre les régions, d'ailleurs. Parce que je vous signale que, par exemple, avec cette réforme qui a constitué des très grands conseils régionaux, la Picardie a disparu, par exemple. Donc, vous voyez, je vais faire revivre les régions, mais en supprimant des conseils régionaux, car je souhaite que l'organisation territoriale se fasse sur la base d'un triptyque, commune, département, nation, et non pas, comme le veulent mes adversaires, communauté, intercommunalité, conseils régionaux et Europe.
Oui, par exemple, pour vous, il n'y aura donc ni Corse ni Alsace en tant qu'entité administrative.
Mais en tant qu'entité administrative, en tant qu'entité politique,
oui.
Voilà, c'est-à-dire avec des conseils régionaux. Moi, je pense que les conseils régionaux, ça n'a servi à rien, ça a coûté très cher.
Donc en Corse, il y aura deux départements et l'Alsace,
Nous verrons, à la limite, on peut très bien envisager qu'un certain nombre de nos compatriotes puissent s'exprimer pour savoir s'ils souhaitent avoir un département unique
ou
s'ils souhaitent
avoir... En Alsace, ça avait été refusé.
Exactement. À nouveau, deux départements. En Alsace, la réponse avait été très claire. Je suis, vous savez, pour la démocratie de proximité, mais en revanche, pour la disparition, effectivement, de ces conseils régionaux.
Il y a un nationalisme corse qui s'est exprimé hier de façon assez violente. Il y a eu des heurts avec certains de vos soutiens. Comment vous avez vécu ça, ce moment qui était musclé, extrêmement violent ?
Il y a un certain nombre de groupuscules ultra-violents ultranationalistes.
Anti-français ?
Ah ben clairement, ils sont venus au cri de français de merde. Donc je pense que quand même là, on a pu comprendre qu'il y avait quand même une forme de rejet de la France. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est pas le sujet, c'est qu'ils sont surtout venus pour commettre des violences contre des Corses, parce que ce sont des Corses qui sont venus m'écouter. Bon, je vois qu'ils font d'ailleurs l'objet d'une forme de complaisance de la part du traitement de la presse. Hein. On est toujours très compréhensif à leur égard. Bon, enfin, ils étaient 30, hein.
Oui.
Ils étaient 30, c'est-à-dire à peu près, je l'espère, le niveau électoral que je vais atteindre en Corse.
Par ailleurs, ce qui a été étonnant hier dans votre discours, c'est que vous avez dit « je suis pour le rapprochement des détenus corses en Corse ».
Oui,
Ce qui est une demande des nationalistes.
Oui, d'accord, mais parce que je pense que l'éloignement des détenus corses, entretient en réalité le sentiment de la part des familles qu'ils sont traités différemment des autres et qu'il n'y a pas de raison de mettre en œuvre une double peine. Ils sont condamnés, ils sont détenus. C'est ça la peine que l'État doit faire appliquer. Mais la peine d'éloignement avec les familles est, à mon avis, une peine qui est inutile.
C'est une certaine générosité quand même. Vous avez aussi tenu des propos sur la langue corse.
Vous savez, il y a un certain nombre. Enfin, vous savez très bien que le FLNC a annoncé déposer les armes. Pour l'instant, ça tient. Eh bien, je pense que c'est aussi un signal pour essayer d'aller dans la voie de l'apaisement.
Des membres de votre entourage ont indiqué que le préfet n'avait pas forcément fait le travail qui convenait pour maintenir l'ordre. Vous soutenez cette thèse ?
Oui.
C'est-à-dire ?
on va pas y passer la journée non plus, mais incontestablement, cette manifestation qui était autorisée à 300 mètres devant la mairie a été amenée sous escorte policière sur ordre du préfet devant les portes...
Complicité de l'État, alors.
Devant les portes du Palais des Congrès, ou peut-être incompétence, tout simplement, hein.
Oui, alors, quand même, parce que ça pose des questions. On entend beaucoup François Fillon, lui, parler d'un cabinet noir à l'Élysée. Vous-même, lorsqu'on parle des affaires pour lesquelles les policiers voulaient vous entendre, vous parlez de machination ou d'instrumentalisation. Est-ce que vous considérez qu'il y a effectivement, au cours de cette campagne, une volonté délibérée de l'État, c'est-à-dire en gros de François Hollande, du gouvernement, de
c'est
nuire
pas l'État, ça.
Au,
c'est
au candidat.
C'est le pouvoir politique, c'est pas tout à fait
oui,
pareil.
Alors,
permettez-moi de faire la différence
non, alors,
entre
oui,
l'État
allez-y.
Et le pouvoir politique.
Mais
le
est-ce que vous considérez que le pouvoir politique
est intervenu pendant cette élection,
est à l'œuvre pour vous empêcher
le
de faire campagne.
Le pouvoir politique instrumentalise tout ce qu'il peut pour tenter de sauver ses postes, voilà, ses mandats. En même temps, c'est pas une nouveauté très entre nous, hein. C'est pas non plus une spécificité.
Mais est-ce que les
hauts
fonctionnaires sont...
C'est si vrai d'ailleurs que M. Fillon était allé voir M. Jouyet pour lui demander précisément d'instrumentaliser la justice contre Nicolas Sarkozy. Donc, il peut pas faire mine aujourd'hui, M. Fillon, de découvrir quelque chose dont il connaissait, semble-t-il, l'existence.
Mais il y a un cabinet noir, d'après vous ?
Non, écoutez, moi, je ne vais pas passer la fin de ma campagne. Il reste 15 jours. Les Français vont faire un choix qui est un choix très important, qui va déterminer leur avenir, l'avenir du pays, qui va déterminer leur pouvoir d'achat, l'emploi, leur sécurité, le niveau d'immigration dans notre pays. Parlez-en entre vous, mais honnêtement,
non, mais là,
moi, ce genre de débat, je pense qu'on en a assez parlé.
Madame Le Pen.
Ça fait deux mois qu'on est...
Oui,
non, mais
Le
ça
Pen.
Fait deux mois qu'on ne parle que de ça.
Madame Le Pen.
Voilà, moi, j'aimerais qu'on parle du fond.
On
vous me l'avez promis.
On va en parler.
Vous
on
me l'avez
parler,
promis.
Une question. Quand même.
Voilà. Mais pas deux minutes
la
avant
justice,
la fin.
La justice française enquête quand même sur des emplois fictifs chez vous, au Front National. Est-ce que vous pensez que c'est une coïncidence ou... Alors
non,
qu'on est à quelques semaines de
non,
l'élection.
Ça n'est absolument pas une coïncidence. Tout le dit, le calendrier le dit. Cette affaire, le parquet a été saisi il y a 3 ans. Il y a 15 mois, j'ai demandé la nomination d'un juge d'instruction. On me l'a refusé. On l'a nommé comme par hasard au mois de janvier. Et c'est là où on sort la grosse caisse, etc. Bon, dans le but, évidemment, que les médias s'en saisissent et puissent salir les gens, avant même, d'ailleurs, qu'il y ait le moindre élément. Donc, bien sûr, ça n'est pas un hasard. Ça s'appelle une instrumentalisation de la justice. Point. Mais les Français se sont fait leur opinion. Hein. Je veux dire, j'ai aucun doute là-dessus. Les Français ont bien vu comment ça se passe. Ils se sont fait leur opinion. Maintenant, ils aimeraient se faire une opinion sur le fond de nos propositions.
Madame Le Pen, néanmoins, quand vous êtes un peu restée sans voix lorsque Philippe Poutou, lors du débat de cette semaine, vous a dit que lui n'avait pas d'immunité ouvrière. Vous êtes restée sans voix parce que vous dites finalement il a raison. Certains ont des privilèges.
Vous croyez que je vais me lancer dans un combat de catch avec M. Poutou? Sérieusement.
En tout cas, il a raison.
Il a
une immunité parlementaire comme vous, alors que quand il est convoqué.
Pourquoi c'est pas un candidat sérieux ? Vous avez l'air de.
Mais c'est en tout cas
vous
pas un
Poutou.
Non, mais c'est un candidat qui est venu dire sur un plateau que il se moquait totalement des Français. Vous croyez que je vais engager le débat avec quelqu'un qui dit ça ? Non.
Mais sur la question de l'immunité, il pointait le fait que tous les candidats n'avaient pas la même immunité lorsqu'ils étaient convoqués par les juges ou les policiers.
C'est-à-dire que tous les candidats ne sont pas députés et à ce titre protégés justement des manœuvres du pouvoir parce qu'il s'appelle l'immunité parlementaire et qui est là précisément pour éviter que le pouvoir ne s'attaque à des députés d'opposition.
Comme l'a fait le pouvoir politique, selon vous, pendant cette période.
Vous la gardez, l'immunité parlementaire, si vous êtes élue, madame ?
Bien sûr, je la garde, bien entendu. L'immunité parlementaire n'est pas une immunité pénale, hein. C'est une immunité parlementaire, c'est-à-dire que c'est à votre Parlement de déterminer si vous n'êtes pas victime, de la part du pouvoir politique, d'un fumus persecutionis.
Alors, si vous êtes élue présidente de la République, il vous faudra un gouvernement pour gouverner, on est d'accord ?
Oui.
Avec qui ?
Enfin, écoutez, vous permettrez de ne pas évoquer ici une liste de noms, hein, puisque c'est ce que vous me demandez. Personne ne le fera,
non,
d'ailleurs.
Aucun
des candidats ne le fera. Ce que je dis, c'est que je suis en train de constituer une majorité présidentielle. Dans cette majorité présidentielle, des gens me rejoindront. Parce que confronté au choix qui sera celui du second tour entre les patriotes et les mondialistes, entre l'ouverture totale des frontières, le laisser-faire, le laisser-aller, le laisser-passer, l'immigration massive, la dérégulation généralisée, le libre-échange total, eh bien, il y a un autre choix que je porte, qui est un choix de protection, qui est un choix de patriotisme économique, de protectionnisme intelligent, de maîtrice ferme de l'immigration.
Ça fait deux semaines que vous parlez des patriotes, mais on ne les voit pas arriver auprès de vous. Pas même Philippe de Villiers, qui pourtant, aujourd'hui, n'est pas impliqué dans un autre parti politique. Il est libre, il pourrait dire.
On les a attendus à des meetings avec vous.
Ah bon, vous les avez attendus avec moi à des meetings ?
On les a annoncés et en fait, ils ne se sont jamais
venus. Qui les a annoncés ? Enfin, vous faites les questions et les réponses, la presse, vous êtes incroyable. Vous lancez des idées en l'air et après vous dites, mais mon idée n'a pas eu de conséquences. Écoutez, laissez l'élection se faire.
Alors à ce propos, l'élection se faire, on voit qu'il y a un petit tassement dans les sondages, alors que vous avez fait la course en tête pendant pas mal de semaines. Là, on voit qu'il y a un tassement et puis on voit surgir quatre candidats qui pourraient tout à fait prétendre à l'élection présidentielle. Ça vous fait sourire ?
Oui, ça me fait sourire parce que ça me rappelle 2012, vous vous souvenez, la grande époque. Mélenchon, le troisième homme, etc.
Bon, Il était loin. Il y a un sondage qui donne 19 pour Mélenchon et Fillon, écoutez, et vous à 23, écoutez, avec M. Macron.
Moi, je ne ressens pas ça. Sur le terrain. Je ressens une incroyable dynamique sur le terrain. Je ressens une énergie et un souhait de tourner la page du système qui est plus fort chaque jour. Donc je crois encore une fois que nous serons présents au second tour et qu'ainsi pourra se déterminer clairement auprès des Français quelle voie ils veulent choisir.
Jean-Luc Mélenchon, il peut vous prendre des voix aussi, non ?
Est-ce que c'est les Français qui décident ou pas ? Je veux bien. Non, mais on peut faire toutes les hypothèses.
Non, mais on peut analyser les sondages aussi.
Non, mais ça, c'est votre boulot, ça. Merci de me dire ça.
C'est pour ça que je vous pose
la question. Votre boulot, c'est pas le mien. Moi, je suis pas là pour commenter la campagne, d'accord ? Je suis pas là pour commenter les sondages. Moi, je suis là pour exprimer aux Français ce que je leur propose, pour qu'ils puissent voter en toute connaissance de cause. Or, aujourd'hui, ils ne peuvent pas le faire parce que 90% des émissions telles que celle-là, qui sont des émissions sérieuses pourtant, où on devrait parler du fond, eh bien, vous nous poussez à faire votre travail. Je ne veux pas faire votre travail. Si j'avais voulu faire votre travail, je serais à votre place. Pas sûr que vous, seriez, en l'occurrence, à ma place. Mais moi, je serais peut-être à votre place.
Je ne prétends pas vouloir être à votre place. Je vous demande si ça vous inquiète. C'est pas une question.
Mais encore une fois, ça m'inquiéterait si je sentais qu'il y avait sur le terrain une inquiétude. Il n'y en a pas. Il y a encore une fois un monde fou, y compris dans des villages de 300 ou de 400 personnes où je vais faire des meetings et où il y a 2000, parfois 2500 personnes. Donc il y a vraiment, encore une fois, une très forte dynamique et souhaite qu'on la retrouve évidemment le soir du premier tour.
L'actualité nous pousse à vous poser des questions qui touchent à votre programme, à votre orientation.
Ah bah, d'abord, merci l'actualité alors.
Fessenheim, vous êtes président de la République, qu'est-ce que vous faites ?
Je ne ferme pas Fessenheim.
Il y a d'être signé, donc ça veut dire que vous faites un autre décret pour annuler celui-ci.
Voilà. Exactement. Je considère que cette décision est une décision prise sous la pression des Verts, que c'est une décision idéologique. En réalité, rien ne pousse à fermer Fessenheim. Les conditions de sécurité sont remplies. Et si l'État fait son travail, c'est-à-dire accompagne le grand carénage qui est évidemment extrêmement utile, alors nous pourrons travailler à développer des énergies renouvelables tout en conservant ce socle qui est le socle du nucléaire, qui est une énergie très peu chère pour les Français. Mais pour l'instant, écoutez, tant qu'on n'a pas une énergie, encore une fois, capable de remplacer le nucléaire, je ne vois pas comment on peut se priver du nucléaire.
La loi de transition énergétique, vous la gardez, qui a été adoptée il y a quelques mois ?
Mais elle part sur des bases qui sont des bases dont nous savons aujourd'hui qu'elles sont totalement idéologiques. Donc il faut arrêter de vendre des choses qui n'existent pas. Il faut investir massivement dans une filière hydrogène soutenue par l'État, parce que moi je crois beaucoup à l'hydrogène. Il faut arrêter l'éolien, je le dis, c'est ma position, je ne veux plus d'éolien. L'éolien, c'est une pollution visuelle absolument épouvantable, qu'elle soit d'ailleurs terrestre ou maritime. Qu'elle soit terrestre ou maritime. Mais en revanche, il faut évidemment travailler sur les énergies renouvelables.
Autre question d'actualité, M. Trump a lancé 59 missiles sur une base militaire américaine. Bon, vous l'aviez appuyé, en tout cas vous étiez favorable à son élection parce qu'il allait dans le sens que vous souhaitiez, du non-interventionnisme, permettre aux nations de s'exprimer. Il prend le contre-pied. Est-ce que...
Et il envoie un porte-avions vers la Corée du Nord.
Et il envoie un porte-avions vers la Corée du Nord. Est-ce que c'est pas une obligation pour vous, compte tenu de ce contexte international, de modifier l'orientation de votre programme? Est-ce que c'est le moment de dire aux Français, on va quitter l'Europe, on va... avoir une France qui agit seule dans son coin?
Je ne comprends pas votre question.
Ah bah si, la France peut-elle se retrouver seule.
Non, non, mais je ne comprends pas quel est le rapport.
Dans un monde d'une complexité et d'une violence, enfin qui risque d'être particulièrement violent.
Bah, raison de plus, honnêtement, pour qu'on ne demande pas à l'Union européenne la moindre protection alors qu'elle a été totalement incapable de nous l'accorder pendant des années. Elle a été incapable de protéger les frontières, elle a été incapable de remplir pourtant les promesses qu'elle avait faites en matière de croissance, en matière d'emploi, en matière de lutte contre la pauvreté. Donc oui, je pense que la France est une grande nation, que c'est une grande nation qui doit, qui tire sa grandeur de son indépendance. Ça n'empêche pas la coopération, encore une fois, avec d'autres nations. Ça ne l'a jamais empêché. Et cette coopération était plus efficace et la voix de la France portait plus lorsqu'elle était la France, lorsqu'elle n'était pas une vague région européenne dirigée par des commissaires européens. C'est cela que je dis. Et croyez-moi, quand je suis allé en Afrique rencontrer le président Idriss Déby au Tchad, l'Afrique, elle attend le retour de la France. Mais de la France, voilà, de cette voix particulière. Oui, mais elle attend le retour, pas seulement le retour pas militaire. Beaucoup de pays dans le monde attendent que la France retrouve cette voix particulière, qui est la voix de nations qui sont indépendantes, qui défend la souveraineté des nations, qui défend le droit des peuples à défendre leur propre identité. Or, aujourd'hui, la France qu'ils ont en face d'eux ne se ressemble plus.
Alors, justement, voilà. Donald Trump a bombardé des bases militaires du régime de Bachar el-Assad. Est-ce que Bachar el-Assad, pour vous, présidente française, reste le meilleur rempart contre Daesh?
Mais qui d'autre sinon?
Non, mais c'est une question.
Bah, moi aussi, c'est une question.
Non, c'est une réponse que vous avez donnée.
Non, qui d'autre? Non, non, c'est une question que je pose. Qui d'autre? Non, parce que si on avait...
Et donc, contrairement
si on avait,
à Trump,
si on avait 10...
Donc, vous n'êtes pas sur la ligne de Trump.
Même 4, donc vous... même 3 choix, si vous voulez. On pourrait, évidemment, s'interroger les uns les autres.
Donc, vous n'approuvez pas les représailles de Trump contre le régime syrien après l'attaque chimique?
Bon, alors, si vous pouviez éviter... Si on pouvait se donner une petite règle du jeu et que vous évitiez de poser votre question avant même que j'ai répondu à la première...
C'est pour mieux comprendre ce que vous dites,
Madame Le Pen. Du coup, on ne comprend plus rien.
Bah non, c'est pour préciser votre pensée.
Donc, clairement... Donald Trump a indiqué qu'il ne serait pas le gendarme du monde. Voilà, que c'en était terminé des aventures bellicistes de l'Irak, de Libye, qui ont porté au pouvoir, qui ont créé le chaos, qui ont livré les populations civiles à l'enfer et qui ont mené au pouvoir les fondamentalistes islamistes. Voilà. Moi, j'en suis resté là. C'était son discours d'investiture. Il fait un choix inverse. Je note qu'il fait un choix inverse. Et comme je suis quelqu'un de cohérent, je ne vais pas dire « Ah ben, je suis d'accord avec ce qu'il fait, parce que c'est incohérent. » Bon, c'est incohérent avec ce qu'il a promis. Bon, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, sur la Syrie, aujourd'hui, il n'y a pas de choix, hélas, peut-être, qui soit crédible entre l'État islamique et Bachar al-Assad. Qu'est-ce que je me dis, moi, comme future présidente de la République française? Mon rôle, c'est de protéger les Français et la France. C'est mon rôle essentiel, mon rôle premier. Or, qui envoie des soldats pour des soldats idéologiques pour venir tuer nos jeunes, nos femmes, nos hommes, nos enfants sur notre territoire? C'est l'État islamique, d'accord? Donc, c'est eux qui, en réalité, sont évidemment aujourd'hui les plus dangereux. Bachar el-Assad, aujourd'hui, ne le fait pas. Ça ne veut pas dire, et je suis très clair, que je ne considère pas que cette attaque chimique est une épouvante. C'est extrêmement clair. Mais il y a une enquête internationale? Attendons donc les résultats de l'enquête internationale avant de se faire justice soi-même. C'est tout ce que je réclame.
Madame Le Pen, effectivement, on ne sait pas trop qui peut remplacer Bachar el-Assad à la tête de la Syrie pour contrer Daesh. Sauf qu'on voit aussi, à l'inverse, que, disons, les nations européennes, américaines et autres, à laisser des dictateurs à la tête des pays, n'ont pas empêché non plus la montée en masse de cette idéologie islamiste. Et d'ailleurs, vous voyez le maréchal Sissi en Égypte. Ce matin encore, il y a eu des attentats contre une église copte. Il y a 22 morts. Donc la dictature style Assad, style Sisi, n'empêche pas non plus la montée de l'islamisme.
Est-ce que vous savez que l'Égypte est un des pays musulmans qui est le plus en pointe dans la lutte contre l'État islamique ?
Mais justement, le c'est ce que je suis en train de vous dire.
Mais bien sûr, mais c'est pas, mais le danger zéro n'existe pas. Vous voudriez quoi ? Que ce soit l'État islamique qui soit à la tête de l'Égypte ? Qu'on fasse revenir M. Morsi, peut-être ? Ce sera plus facile, au moins les choses seront claires.
Est-ce qu'en soutenant les dictateurs, on ne facilite pas la propagation d'une idéologie islamiste qui apparaît comme étant celle des défense des pauvres et des opprimés ?
Mais bien sûr, mais M. Mazrat, pas de problème. Alors, livrons-leur alors à ce moment-là.
Non, je ne dis pas
alors,
ça.
D'abord, je vais vous dire une chose.
Mais est-ce que la situation n'est pas plus complexe que ça ?
M. Mazrat, c'est pas à nous de décider ça. D'accord ? Moi, en tout cas, dans mon esprit, ça n'est pas à nous de faire ce type d'ingérence et de venir mettre un tel ou un tel à la tête d'États qui ne sont pas les nôtres. Parce que je crois que c'est au peuple de décider. Or, je peux vous dire, pour être allé en Égypte, que le peuple égyptien soutient massivement le président Al-Sisi, massivement, précisément parce qu'il lutte contre le fondamentalisme islamiste et que ce matin encore, et permettez-moi de leur rendre hommage, les Coptes ont encore été victimes d'un attentat dans une église absolument épouvantable. Donc, moi, je crois qu'il faut que nous engagions une grande coopération avec toutes les nations qui luttent contre l'État islamique, parce que l'État islamique est un danger majeur. On l'a vu, on a besoin d'autres preuves que celles qui ont été apportées par cette idéologie totalitaire en France, en Suède, en Belgique, en Grande-Bretagne, etc. Faut-il d'autres preuves ? Donc, dans les nations qui luttent contre l'État islamique, il y a évidemment la Russie, il y a évidemment l'Égypte, il y a les Émirats Arabes Unis, il y a le Tchad.
Pardonnez-moi, est-ce que je peux vous poser une question ? Avant l'État islamique, il y avait la propagation de l'islamisme avec les frères musulmans, avec d'autres groupes musulmans. Par conséquent, si Daesh est détruit, ça n'empêchera pas la résurgence d'autres mouvements.
Mais vous avez raison, il faut lutter aussi contre les frères musulmans. Les frères musulmans à qui nos dirigeants politiques ont déroulé le tapis rouge en France depuis des années, qui se sont installés, qui ont pris la tête d'associations culturelles, sportives, qui font du prosélytisme, qui recrutent. Vous avez parfaitement raison. Les frères musulmans font partie de ces associations contre lesquelles il faut lutter de toutes nos forces, en coopération avec tous les pays qui les connaissent bien, et notamment l'Égypte, parce que c'est évidemment contre les frères musulmans que l'Égypte combat, bien sûr.
Un cas concret, la semaine prochaine, au week-end de Pâques, l'UOIF, qui est une organisation islamique, organise, comme tous les ans, un grand meeting qui dure 3 jours d'ailleurs à Villepinte. Parfois, il y a M. Tariq Ramadan qui y participe. Marine Le Pen, présidente, est-ce qu'on interdit ce genre de manifestation ?
Mais moi, je suis pour la dissolution de l'UOIF. UOIF qui, encore une fois, a été soutenu par tous les candidats. Monsieur Macron trouve que ce sont des gens qui sont très bien. Monsieur Fillon n'a jamais rien dit contre l'UOIF. Nous en avons demandé la dissolution pendant des années. Voilà. Et la réalité, il faut que les gens qui nous écoutent l'entendent, c'est que depuis des années, nos dirigeants politiques, pour des raisons électoralistes, ont fait la part belle à tous ces fondamentalistes islamistes. Ils les ont laissés pulluler sur le territoire. La France est devenue une université djihadiste. Il faut quand même le dire. Et ça, ils en portent clairement la responsabilité. Il faut rompre avec cette politique d'urgence, car sinon, la situation va s'aggraver. Nous allons vivre des années qui seront des années noires. Et c'est maintenant qu'il faut le faire, parce qu'il est déjà tard, du fait des carences, de la lâcheté et de l'incompétence de la droite et de la gauche.
Dans votre programme, proposition 119, le rétablissement progressif du service militaire, entre parenthèses, minimum obligatoire, 3 mois. Comment ça se fait, cette progressivité ? Qui, au départ, est appelé à exercer, à assumer ce service militaire ?
Non, mais je ne vous avais pas compris la mesure. Quand on dit progressif, c'est que M. Fillon a effondré totalement l'armée. 54 000 militaires en moins sous son quinquennat. L'armée est à l'os. Elle n'arrive même plus aujourd'hui à assurer sa propre sécurité. La réalité est celle-là. Il faut donc reconstituer les moyens de l'armée, et sur le plan des effectifs et sur le plan du matériel. Il faut donc immédiatement porter l'effort à 2% du PIB, pas en 2024, comme j'entends, ou 25. Là, tout tout de suite, parce que sinon notre armée sera en très grave difficulté.
C'est pas le service militaire qui va remettre l'armée, qui va redonner des forces à l'armée. Hein.
Mais, ça, monsieur, mais pour créer un service militaire, il faut bien qu'ils soient encadrés, ces jeunes.
Oui.
Ils sont encadrés par qui ?
Ben, je sais pas, je vous...
Par des militaires, bon d'accord. Donc il faut reconstituer les effectifs. C'est donc la reconstitution progressive de l'armée qui va permettre...
Et à partir de quand ce service militaire ?
Mais nous allons reconstituer d'abord, encore une fois, les effectifs pour permettre de mettre en œuvre ce
service militaire. Parce que le service militaire, un, il coûte cher, et deux, il a été supprimé justement parce qu'il servait à rien sur le plan de militaire, j'entends, pas sur le plan de la formation.
Notamment sur le plan de la projection de la force.
Mais il coûtait cher, il mobilisait beaucoup de militaires. Et
je ne crois pas qu'il ait été supprimé pour ça, monsieur. Je crois qu'il a été supprimé parce qu'on ne voulait pas voir la réalité. Voilà, et qu'on n'arrivait plus à tenir un certain nombre de jeunes qui étaient appelés sous les drapeaux. Elle est là, la réalité. Ça a encore été une manière de casser le thermomètre pour ne pas voir qu'il y avait la fièvre. Alors moi, je veux le reconstituer. Je veux que l'on puisse, sur 3 mois, voir toute une série, d'ailleurs, jauger, en quelque sorte, toute une série, le niveau de santé de notre jeunesse, ça permet à ça aussi.
Donc c'est un objectif social pour vous, le service militaire, pas militaire.
Les mettre ensemble, leur réapprendre à aimer la France, leur réapprendre ce que c'est que le drapeau, l'hymne.
Oui, c'est un objectif social, pas militaire. Les militaires réclament pas ça, ils demandent des moyens pour pouvoir se battre quand il le faut à l'étranger.
Non. Il y aura aussi, évidemment, bien entendu, c'est essentiel, c'est le but du service militaire, une formation militaire. Mais ça permet aussi d'avoir une vision claire de génération, de tranches d'âge, c'est important.
Ça coûte combien le service militaire de 3 mois ?
Oh, ça coûte un certain coût.
Ça doit coûter à peu près 4 ou 5 milliards.
Oui,
non,
oui, c'est vrai. Oui, vous avez raison. Je vais vous ressortir ça. Oui, vous avez raison.
Mais vous savez comment alors ?
On va marquer.
Alors, je vais avoir à chaque fois la question. Est-ce que vous pourriez avoir l'amabilité d'aller, comme l'ensemble de ceux qui nous écoutent d'ailleurs, regarder le chiffrage qui est le mien, car le chiffrage de mon projet est très clair. Il est très précis. Il y a 80 milliards de dépenses et 90 milliards de dépenses et 80 milliards d'économies. Voilà, c'est simple. Les 10 milliards, c'est la croissance que nous obtiendrons qui permettra d'avoir des recettes nouvelles. Donc tout cela est chiffré, mais encore une fois, ce sont des choix. C'est vrai que j'arrête l'immigration, c'est un choix. J'arrête l'aide médicale d'État, c'est un choix. J'arrête de verser 9 milliards de pertes chaque année à l'Union européenne. Allez. C'est un choix. Il faut faire des choix. Et moi, je vous appelle à être très prudent à l'égard de gens qui, précisément, dans cette campagne, semble-t-il, refusent de faire des choix.
Eh bien, on va faire un choix, c'est les informations de 13h. Et puis, on vous retrouve pour parler de votre programme, et notamment sur un référendum que vous voulez organiser, d'après ce que j'ai compris, d'entrée de jeu sur la réforme constitutionnelle.
Ah, très bien.
Suite du grand jury RTL, Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Marine Le Pen, présidente du Front National, candidate à l'élection présidentielle. Le débat est dirigé par Olivier Mazerolle.
Marine Le Pen, vos propositions 2 à 6 indiquent que vous avez l'intention d'organiser un référendum sur la réforme constitutionnelle et notamment sur la proportionnelle intégrale. Christophe Jacobici, il y a une question à vous poser à ce sujet.
Oui, sur le mode de scrutin que vous proposez, parce que vous avez rarement été interrogé dessus. Donc le parti arrivé en tête obtient automatiquement une prime de 30% des députés supplémentaires. Est-ce que ce n'est pas un peu une loi faite exactement pour le Front National ? C'est-à-dire que vous êtes pour l'instant aux européennes et au régional le premier parti de France, et donc vous auriez automatiquement, avec 25% des voix, la majorité absolue à l'Assemblée. Est-ce que c'est plus démocratique qu'un système majoritaire ?
Oui, à partir du moment où il y a des millions de Français qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale...
Mais 25% que ça dure, des Français feront 55% que ça dure des députés.
Que ça dure depuis des années, tous ceux qui feront plus de 5% seront représentés. Voilà, c'est ainsi qu'on respectera enfin le pluralisme, parce que est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, la démocratie est respectée quand on voit que... Avec près de 20% des voix, le Front National avait 2 députés. Et qu'en revanche, avec, 2%, les Verts avaient 18 députés.
Bon. Est-ce que pour autant, Marine Le Pen, avec 25% des voix des Français, vous êtes légitime à avoir 55% des députés ?
Ça permet, mais moi ou d'autres, hein, ce sont les Français qui décident. Alors je sais que ça gêne quand les Français décident, mais c'est l'axe, moi, de mon projet.
C'est pas très proportionnel comme
proposition. C'est l'axe de mon projet, moi, c'est au nom du peuple. Voilà. C'est le peuple qui décide.
Pourquoi pas être proportionnelle intégrale, Marine Le Pen ? Pourquoi pas à ce moment-là représenter les partis par rapport à ce qu'ils représentent chez les électeurs.
Mais parce que j'ai entendu, moi, l'inquiétude sur la stabilité que demandait un certain nombre. Donc, vous voyez, j'ai tranché. Et je suis, vous le savez, pour la proportionnelle depuis très longtemps. En l'occurrence, je crois que les Français également, d'ailleurs, sont très pour la proportionnelle. Mais cette prime à la liste arrivée en tête permet d'avoir une forme de stabilité.
À quel moment vous engagez cette réforme constitutionnelle ?
Je l'engage le plus rapidement possible parce que je vais la mettre en œuvre. Je vais la mettre en œuvre par référendum. Dans cette révision constitutionnelle, je vais intégrer
la priorité nationale.
Je vais intégrer la priorité nationale pour que les Français puissent être prioritaires pour les logements sociaux, parce que ça n'est pas le cas aujourd'hui. Je pense que c'est juste qu'ils le soient. Et pour l'emploi, notamment au travers de la mise en œuvre d'une taxe de 10% sur les nouveaux contrats d'embauche pour les étrangers.
Mais vous faites ça alors qu'on est encore dans l'Europe. Et ça risque d'être un peu contradictoire avec certaines obligations européennes, non ?
Ah bon ? Eh bien, il se trouve que moi, je crois à la démocratie. Je pense que le peuple est souverain. C'est en tout cas inscrit dans la Constitution. Voilà, le peuple est souverain. Mmh. Et lui seul.
Il
est aussi inscrit qu'on doit
respecter le traité de Lisbonne dans la Constitution.
Je vais lutter, je vais intégrer. Oui, ben justement, ça fera pour partie de la révision constitutionnelle, cher monsieur. Merci d'arriver jusque-là.
Justement, Marine Le Pen.
Mais écoutez, je ne peux pas terminer une phrase.
Non, justement, je voudrais préciser ce point-là, très important. Est-ce que, donc, dans le référendum, vous demandez la modification, pour être précis, je ne veux pas jouer les monsieur Asselineau, mais l'article 88 alinéa 1 de la Constitution qui prévoit que la France participe à l'Union européenne à son fonctionnement en vertu du traité de Lisbonne.
Je vais demander aux Français s'ils sont d'accord pour baisser le nombre de députés et de sénateurs, mettre l'inscription claire dans la Constitution, la République ne reconnaît aucune communauté pour arrêter ce communautarisme qui est le terreau du fondamentalisme islamiste dans notre pays. Mettre en œuvre cette priorité nationale pour qu'ils puissent être les premiers à pouvoir avoir accès dans leur pays à l'emploi et au logement social. Je vais intégrer la défense et la promotion du patrimoine historique et culturel pour éviter...
Le référendum où il n'y aura qu'une seule question.
Non, c'est pas un QCM, c'est une révision constitutionnelle, c'est oui ou non. La défense du patrimoine historique et culturel pour qu'on puisse mettre des crèches dans les mairies au titre du respect de notre patrimoine historique et culturel sans que le Conseil d'État se croie obligé de l'interdire, à la demande d'ailleurs de M. Barouin, dont M. Fillon a dit qu'il serait un très bon Premier ministre pour lui s'il était élu. Je vais intégrer la réforme territoriale et je vais rappeler, parce que je vais rendre aux Français leur pouvoir en indiquant que les lois françaises qui seront votées auront une autorité supérieure aux traités européens et aux droits dérivés antérieurs.
Mais c'est là où il y a un problème et une question, c'est comment vous arrivez à articuler ça tout en sortant de l'Europe alors que vous ne serez pas encore sorti de l'Europe.
Ça, c'est ce que je vais faire tout de suite. Et je vous indique qu'il y a quelque chose que je vais faire tout de suite et qui n'est pas dans la révision constitutionnelle, c'est la suspension immédiate de Schengen. Vraiment.
Vous sortez tout de suite.
Donc vous n'avez pas voté la réforme récemment d'ailleurs. Hein.
Non monsieur, je vais suspendre parce que je considère que la France est en situation de grand danger, que ceci est d'ailleurs prévu par les textes européens, mais véritablement, je ne vais pas uniquement signer un papier. Je vais à nouveau protéger et contrôler nos frontières pour savoir qui entre sur notre territoire et qui se maintient, alors qu'il ne devrait pas le faire, sur notre territoire. Voilà, ça...
Et Marine Le Pen, de facto, on sort de l'Europe avec ce référendum, ne serait-ce que parce qu'on annule, comme le disait Olivier, l'article 88, donc de facto, on est en dehors de l'Europe.
Après, je ne le crois pas. On rend juste aux Français, encore une fois, le pouvoir. On rend à ses représentants le pouvoir.
Mais ce n'est pas compatible avec une participation à l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui.
Mais par exemple, dans cette, même après cette révision constitutionnelle, on ne pourra toujours pas faire de patriotisme économique. C'est-à-dire donner un avantage à nos entreprises françaises dans la commande publique. On ne pourra pas encore faire de protectionnisme intelligent. De protectionnisme intelligent. C'est-à-dire éviter la concurrence internationale déloyale vécue par nos agriculteurs ou par nos industriels. Vous voyez, ça, ce sera encore interdit. Et ça va faire l'objet d'une négociation. Mais dites-moi, je suis pas la seule à vouloir négocier avec l'Union européenne. Je me suis rendu compte là lors du débat que tout le monde voulait négocier. Même Monsieur Fillon, même Monsieur Fillon, même Monsieur Mélenchon. Alors quelle est la différence entre moi et les autres ? C'est que moi, je veux aller dans cette négociation au nom du peuple français, mais que l'issue de cette négociation, c'est le peuple qui en décidera. Et c'est ça qui fait toute la différence entre mon projet et celui des autres, c'est que moi j'ai une vision profondément respectueuse de la démocratie. Je considère que le peuple français est un peuple majeur et que par conséquent il peut décider par lui-même, et donc je livrerai l'issue des négociations aux Français, et c'est eux qui
seront si disant. Mais Madame Le Pen, attends, ça veut dire quand même que pendant tout ce laps de temps, vous ne pouvez pas mettre en œuvre votre programme économique.
Mais non, beaucoup. Ah bah si, je peux quand même.
Je parle du programme économique. Vous avez, proposition 36, soutien aux entreprises par protectionnisme intelligent, vous nous dites que vous ne pouvez pas. Rétablissement de la monnaie nationale, on attendra la fin des négociations. Instaurer le patriotisme économique, proposition 37, en se libérant des contraintes européennes, on attendra la fin de la négociation, je suppose. Proposition 43, fin des mauvaises dépenses publiques liées à l'Union européenne, on attendra, je pense, la fin de la négociation. 59, proposition 59, contribution sociale sur les importations de 3% pour financer le pouvoir d'achat des bas revenus.
Mais là merci, aussi. Mais merci, monsieur Mazerolle.
Mais donc on attend la fin des négociations.
Mais merci, monsieur Mazerolle.
Pendant 8 mois, il ne se passe rien.
Merci de votre contribution à ma campagne.
J'ai lu votre programme.
Car en lisant cela, je peux en placer une ?
Bien sûr.
Merci beaucoup. Et en disant cela, vous faites la liste de tout ce qui est interdit par l'Union européenne. Merci beaucoup. Merci beaucoup de rappeler que ceux qui précisément font ces promesses-là dans les autres camps politiques mentent lorsqu'ils disent qu'ils peuvent mettre ça en œuvre. Alors que nous sommes enfermés dans l'Union européenne. Donc merci beaucoup de faire cette liste.
C'est la raison.
Il ne se passe rien.
Si, il va se passer qu'on va arrêter l'immigration déjà. Ça va se passer tout de suite. Il va se passer qu'on va commencer à lutter contre le fondamentalisme islamiste, qu'on va faire la liste des associations.
Sur le plan économique.
Qu'on va faire la liste des associations qui, aujourd'hui, mènent un combat terroriste contre la France pour pouvoir appliquer l'article 411.3. Ça, on va pouvoir le faire tout de suite. On va pouvoir baisser les charges sur les TPE-PME. Ça, on va pouvoir le faire tout de suite, plutôt que de le faire comme les socialistes l'ont mis en œuvre au bénéfice des grands groupes. Ça, on va pouvoir le faire tout de suite. Supprimer totalement les charges sur l'embauche la première embauche d'un jeune de moins de 21 ans. Ça, on va pouvoir le faire tout de suite. Mettre en œuvre l'augmentation de 25% des logements pour les moins de 27 ans. Ça, on va pouvoir le faire tout de suite. Augmenter l'allocation adulte handicapé. Augmenter le minimum vieillesse. Ça, on va pouvoir le faire tout de suite. Il y a beaucoup de choses en 6 mois qu'on va pouvoir faire tout de suite. Ça, je vous l'assure. Mais merci d'admettre que ceux qui font ces promesses-là et qui nous disent qu'il faut rester dans l'Union européenne...
Pourquoi vous voulez sortir de l'Europe puisque vous pouvez le faire tout de suite ?
Non mais c'est un gag. Mais précisément pour toutes les raisons qu'a exposé M. Mazerolle tout à l'heure.
Vous reconnaissez que vous ne pouvez pas le faire comme ça. Il faut que vous sortiez de l'Europe.
Mais vous étiez où dans les 3 dernières minutes là ?
J'étais avec vous.
Vous étiez avec nous ?
J'étais avec vous.
D'accord. Vous avez donc suivi la conversation.
Non, mais
je vais la résumer.
Oui.
D'accord ? M. Mazerolle m'a lu toute une série de choses qu'on ne peut pas faire dans le cadre de l'Union européenne. Je lui ai répondu qu'il y avait toute une série d'autres choses qu'on pouvait mettre en œuvre tout de suite, mais qu'il avait raison, il faut effectivement renégocier très profondément avec l'Union européenne pour pouvoir mettre en œuvre la protection patriote.
L'application de votre programme complet, tel que vous le présentez là, est conditionnée à la sortie de l'Union européenne.
Donc, une partie.
Oui, parce que...
Ne me dites pas ça comme si je l'avais caché aux Français. Il me semble que je suis la seule à avoir dit la vérité sur ce sujet.
Et qu'est-ce qui se passe si les Français...
Ne me dites pas ça comme si j'étais dans la... Non, mais ne me dites pas ça comme si j'étais dans la dissimulation quand même, M. Mazerolle.
Mais je ne suis pas en train de dire que c'est...
Parce que moi, j'ai toujours dit que l'Union européenne...
Est-ce que votre référendum est utile dans la mesure où... Votre programme ne peut tenir debout que si on sort de l'Europe.
Mais parce que vous partez du principe que je vais échouer dans cette négociation. Moi, je pars du principe que je vais réussir cette négociation.
Et si vous échouez ?
Et pour une raison simple.
Vous êtes comme Cameron, en fait. Vous faites une négo et vous espérez qu'après, les Français vous donneront quitus en vous disant que vous avez bien négocié et on reste en Europe.
Non, monsieur Cameron a toujours voulu rester enfermé dans les règles de l'Union européenne. S'est engagé sur ce référendum. Est-ce que je peux terminer une phrase ? Ça devient vraiment pénible, je vous assure. Pour ceux qui nous écoutent mon avis. Bon, monsieur Cameron ne souhaitait pas sortir de l'Union européenne. Il a fait ce référendum pour des raisons électoralistes, pour baisser le niveau du UKIP.
Mais vous non plus, puisque je souhaite dire que vous négocierez bien et que donc vous n'aurez pas besoin de sortir de l'Europe.
Mais parce que, monsieur, si je réussis cette négociation, alors ça n'est plus l'Union européenne. Alors c'est l'Europe des nations et des libertés que je souhaite. Alors c'est l'Europe des coopérations. Alors c'est l'Europe des nations qui seront à nouveau souveraines. Où lorsque le peuple décide quelque chose, eh bien c'est mis en œuvre.
C'est ce que disait
parce
Cameron,
qu'il est
aussi.
Assez grand. Non, c'est pas du tout ce que disait Cameron. Parce qu'il est assez grand pour décider pour lui-même. Donc clairement, je crois sérieusement que mon élection est une grande chance. Parce que beaucoup de pays souffrent considérablement des promesses qui n'ont pas été tenues par l'Union européenne, il faut le dire. Mais ils se sentent trop faibles, trop petits pour pouvoir faire le bras de fer à l'Union européenne. La France est un pays puissant. Et lorsque j'aurai été élue et que j'engagerai cette négociation, beaucoup de pays viendront avec moi à la table des négociations pour dire « Nous non Alors, plus, ça ne nous va pas. Nous non plus, la manière dont fonctionne l'euro nous étouffe notre économie. Nous non plus, on ne veut plus avoir les frontières ouvertes et accueillir des centaines de milliers, peut-être même des millions de migrants tels que l'a décidé Mme Merkel. Nous non plus, on ne veut pas que l'Union européenne vienne décider pour nous qu'on doit abandonner notre culture ou abandonner notre identité. » Vous voyez ? Et donc nous serons un pack de nations qui viendront défendre les intérêts de nos peuples. C'est pour ça que je crois très fondamentalement que ça va réussir.
Si d'aventure, vous ne réussissez pas, vous avez dit référendum, vous le perdez, on ne sait jamais, vous quittez le pouvoir.
Si, encore une fois, les conditions ne sont pas réunies pour permettre de mettre en œuvre le programme de protection des Français, s'il s'agit pour les Français de choisir uniquement le taulier de la prison européenne, à ce moment-là, effectivement, ils ont le choix dans les différents autres candidats. Moi, je suis là pour leur offrir la clé de la liberté. Parce que je viens leur dire, sans cette liberté, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas protéger nos emplois.
Ça veut dire que vous partez.
Mais ça veut dire que, effectivement, si les Français me disent, ben non, on veut rester dans l'Union européenne,
et qu'ils seront
d'ailleurs un petit peu contradictoires, en l'occurrence.
Bon.
Mais encore une fois, je pense que cette négociation réussira. Voilà.
Excusez-moi,
on ne va pas faire l'intégralité.
Si,
y passer non plus 20 minutes.
Est-ce que la question que vous posez aux Français, c'est est-ce que oui, vous voulez d'une Europe telle que j'ai négociée maintenant, avec plus de liberté?
C'est exactement ça.
Ou est-ce que vous voulez sortir de l'Europe?
C'est exactement ça.
Si vous disent, on veut sortir de l'Europe, est-ce que vous continuez à être leur présidente ou pas?
Mais
on veut rester.
Ah oui.
Je comprends absolument pas. Excusez-moi, mais c'est plus compréhensible du tout pour personne.
Votre demande, c'est qu'ils vous disent oui. Vous avez bien négocié, on reste en Europe, c'est ça votre proposition?
Non, mais.
Ou pas?
Non. J'aurais fait une négociation. Je livrerai cette négociation aux Français. Je leur dirai voilà, cette nouvelle Europe que vous avez espérée, parce que vous voulez moins d'Europe et plus de France depuis des années que personne ne vous entend, parce que vous avez été trahi au moment du référendum de 2005. Vous aviez dit non, et vos dirigeants politiques de droite comme de gauche ont dit oui. J'ai négocié cette nouvelle Europe. Je vous la livre. Est-ce que cette nouvelle Europe vous va? Si elle vous va, alors il faut rester dans cette nouvelle Europe, et si elle ne vous va pas, alors il faut que vous votiez pour sortir de cette nouvelle Europe.
C'est la question que je vous posais.
Voilà. Mais c'est moi qui déterminerai. Mais c'est moi qui le déterminerai, monsieur. Pardon, monsieur Jacques.
Oui ou non, c'est ça ?
C'est moi qui, à l'issue de la négociation, dirai voilà, ça me va. Donc nous pouvons rester, et je vous conseille de rester. Et je vous conseille de rester.
Ou ça ne me va pas. Comme ils l'ont dit à Cameron.
J'ai déjà répondu trois fois à cette question dans les cinq dernières minutes. Vous voyez, je vous dis une chose. Vous vous écoutez tellement parler qu'en réalité, vous n'écoutez pas les réponses des gens que vous interrogez. Ça pose vraiment un souci.
Je crois que les Français qui nous écoutent n'ont pas compris ce que vous
dites. Ah, mais ça, je vois pas comment ils peuvent comprendre.
Ce que veut dire Christophe, c'est que le cas échéant, les Français pourraient trouver que vous n'êtes pas suffisamment radical à l'égard de l'Europe. Voilà.
Et qui préférait sortir complètement de l'Europe, complètement, comme les Anglais l'ont fait.
Il serait encore plus,
encore plus radical que vous.
Et bien très bien, mais tout ça fera l'objet d'un beau débat.
Très bien. Bon, alors, allez, on va parler un peu de la société. Je vois, proposition 97, renforcer l'unité de la nation par la promotion du roman national, qui va le fixer, et le refus des repentances. Est-ce que Jacques Chirac a eu tort de prononcer son discours sur le Veldiv?
Je pense que la France n'est pas responsable du Veldiv. Voilà. Je pense que de manière générale, plus généralement d'ailleurs, s'il y a des responsables, c'est ceux qui étaient au pouvoir à l'époque. Hein. C'est pas la France.
Mais c'est l'État français.
La France a été malmenée dans les esprits depuis des années. En réalité, on a appris à nos enfants qu'ils avaient toutes les raisons de la critiquer, de n'en voir que peut-être les aspects historiques les plus sombres. Donc je veux qu'ils soient à nouveau fiers d'être français. Parce que je pense que ce lien d'amour qui existe entre les Français et la France, c'est un lien qui est fondamental. Ce lien de confiance aussi entre les Français et la France. Encore faut-il que la France leur rende et ne donne pas non plus le sentiment, comme l'ont fait nos dirigeants politiques pendant des années, de toujours mettre en place une politique qui vise à avantager les autres plutôt que les nôtres. C'est aussi ça le patriotisme économique que je veux voir mettre en œuvre. C'est aussi ça la priorité nationale, le fondement de la priorité nationale que je veux voir mettre en œuvre. C'est une autre manière de voir la relation entre la France et les Français.
Sur la délinquance, il y a quelque part dans votre programme, il est mentionné que les délinquants étrangers délinquance ou criminalité, eh bien, seront expulsés.
Oui. Oui, je pense que quelqu'un qui vient dans notre pays et qui commet un délit ou un crime n'a rien à y faire. Voilà. Il a en même temps violé les lois du pays et les lois d'hospitalité.
C'est à partir de quel niveau de délinquance ?
Je ne sais pas, il faut que le délit soit quand même grave, ou que ce soit un petit délit, mais qu'il soit commis en récidive. Sur le principe, là tout de suite vous donner ce genre de détails, mais sur le principe, je pense qu'encore une fois, nous n'avons absolument aucune raison de subir la présence de gens qui violent
les
lois.
Pareil pour les fichiers S.
Mais nous n'avons aucune raison d'accepter sur notre territoire la présence de gens qui représentent potentiellement un danger.
Parce que c'est potentiel.
Qu'est-ce qui justifie qu'est-ce qui justifie ? Il y a des fichiers S qui le sont parce qu'ils sont en lien avec des organisations fondamentalistes islamistes. Qu'est-ce qui justifie que les Français soient obligés de conserver sur notre territoire des gens qui représentent un danger potentiel ? Rien. Et en plus, ce qui est peut-être pire, ce qui est en fait une double peine pour les Français, c'est que non seulement ils sont là, mais en plus, on subvient à leurs besoins compte tenu du fait qu'on a mis en place un système social qui est éminemment généreux à l'égard des étrangers, beaucoup moins, il faut bien le dire, à l'égard des Français. À chaque fois que nos dirigeants ont voulu faire des économies, à chaque fois, c'est tombé sur les Français. On a supprimé la demi-part des veufs et veuves. Ça, c'est un acte de M. Fillon. Est-ce que vous croyez que d'aller supprimer la demi-part des veufs et des veuves, c'est juste? Alors même qu'on voit toute une série d'aides sociales, de subventions sociales qui sont accordées à des étrangers, y compris des étrangers en situation irrégulière dans notre pays. Donc là encore, il faut remettre l'église au centre du village, comme on dit, c'est-à-dire rétablir les priorités. Moi, ma priorité, ce sont les Français.
On arrive à la fin de l'émission. Christophe.
Une question très concrète sur la sélection à l'entrée de l'université, parce qu'elle clive les candidats, c'est un débat intéressant. Benoît Hamon qui vient de dire que faire la sélection, c'est priver une partie de la jeunesse qu'elle parle du droit à l'ascension par les études. Vous dites non, je préfère la sélection au mérite plutôt que la sélection au tirage au sort. La sélection au mérite, ça se passerait comment pour
vous ?
Ou
la sélection à l'échec ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est la sélection à l'échec.
Comment est-ce qu'on sélectionne les entrées à l'université ? Un concours, un examen ?
Non, je crois qu'on rétablit surtout un bac. Un bac digne de ce nom. Parce qu'aujourd'hui, à partir du moment où on donne, en réalité, le baccalauréat avec un niveau extrêmement bas, enfin, je veux dire, chacun l'admet, à 90% de la classe d'âge, eh bien, tout le monde entre en université et on sait pertinemment que, encore une fois, c'est soit l'échec, soit l'argent, d'ailleurs. Parce qu'il faut les payer, les études. Et il faut, en université, ce sont les parents qui payent. Et ce sont, évidemment, ceux qui ont le plus de moyens qui peuvent payer des études longues à leurs enfants. Mais surtout, je suis pour revaloriser les filières professionnelles aussi. C'est-à-dire donner le choix aux enfants de se constituer un métier, un beau métier, avec des diplômes de valeur, mais dans les filières professionnelles. Et ça, aujourd'hui, ça n'est pas le cas, puisque nos gouvernants considèrent la filière professionnelle comme une filière où il faut envoyer les enfants qui échouent, ce que je ne crois pas. Et d'ailleurs, la réflexion de Mme Najat Vallaud-Belkacem lors d'un débat que j'ai eu avec elle était très révélateur. Elle parlait de tri sélectif en parlant des filières professionnelles. Ça n'est pas, encore une fois, ma vision.
Il nous reste 2 minutes 30 des questions d'auditeurs et téléspectateurs. Pouvez-vous expliquer pourquoi 28% des élus FN municipaux ont démissionné depuis 2014 en accusant des fonctionnements antidémocratiques ?
Non, mais c'est totalement faux. C'est un mensonge absolu déversé par un certain nombre de journalistes. Il n'y a pas 28%. Un certain nombre ont effectivement quitté leur mandat, tout simplement parce que, d'abord, ils ont déménagé. Et quand ils sont conseillers municipaux, ce n'est pas facile de continuer à être conseiller municipal d'opposition quand on habite à 500 ou à 600 km. Ils ont d'ailleurs été remplacés, évidemment, par leur suivant de liste. Alors, il y a un certain nombre aussi qui n'avaient pas envisagé la charge de travail que ça représente. Mais là encore, ils ont été remplacés. Donc, voilà. Voilà l'exemple type d'une diffamation qui est effectuée, reproduite, sans aucune preuve. Mais bon, on a l'habitude de ça.
Quelle est votre solution concernant les travailleurs pauvres ou précaires, entre parenthèses, précision, contrat vacataire, CDD à répétition, etc.
Je veux mettre en place une prime de pouvoir d'achat qui va pouvoir donner à peu près 80 euros par mois à tous ceux qui gagnent salariés ou retraités, moins de 1500 euros par mois. Et je la ferai financer par une contribution sociale à l'importation de 3%. Mais je veux aussi retirer la loi travail, hein, alors que M. Macron veut faire une loi travail puissance 1000, on vient de l'apprendre, qu'il passera par ordonnance d'ailleurs, parce que c'est une loi qui a beaucoup précarisé, notamment, il faut bien le dire, les femmes. Et les femmes seules, il faut quand même l'admettre. Je vais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, accorder une augmentation du minimum vieillesse, car aujourd'hui, ce sont l'intégralité des générations que l'on a appauvries et qui n'arrivent même plus à venir en aide les unes aux autres.
Pensez-vous augmenter le SMIC, si oui, de combien ?
Bon, il faut lui faire suivre au moins quand même l'inflation, parce qu'il n'a pas subi d'augmentation depuis très longtemps. Mais encore une fois, je pense que la prime de pouvoir d'achat est quelque chose qui va pouvoir immédiatement, sans faire peser le poids sur l'entreprise, apporter cet oxygène dont dont les petits salaires ont besoin.
En 20 secondes, que prévoyez-vous pour les foyers monoparentaux qui ont du mal à survivre ?
Eh bien, l'intégralité de ce que je viens de dire. Et moi, je crois que les foyers monoparentaux doivent aussi, comme d'ailleurs les personnes qui ont été victimes d'une affection de longue durée, voir leur cas regarder, notamment pour l'accès au logement social. Parce qu'on parle très peu de logement dans cette campagne. Le logement, c'est considérable. C'est une part, c'est quasiment un tiers du budget des ménages, et on n'en a pas parlé, et pourtant il y a beaucoup à faire dans le cadre de ce logement pour pouvoir permettre aux Français de se loger dignement, correctement et à un coût raisonnable.
Merci Marine Le Pen, c'était votre grand jury qui sera rediffusé ce soir à 21h sur LCI. Bon après-midi à tous.